Alors bonjour à tous. Avant de commencer ce partage, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent, voilà, qui comblent un petit peu les rangs plutôt clairsemés ce matin. J'ai envie de recommencer les présentations, pas les présentations, mais plutôt l'introduction en reprenant ce que disait Manu. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors comme vous le savez, ce que je vais vous dire ce matin, je pense que vous le savez tous, vous le connaissez tous, ce n'est qu'un rappel. Nous fêtons Pâques. Pâques, pour nous chrétiens, c'est à la fois la célébration de la sortie de l'esclavage du peuple juif en Égypte. C'est aussi le repas de la Pâque que le peuple juif prenait en commémoration. C'est aussi la crucifixion de Jésus-Christ et c'est surtout sa résurrection 3 jours après, cette résurrection qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Alors je voudrais rappeler l'importance de cette fête. Cette fête commémore principalement ce fameux sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix. Cet acte est nécessaire, et vous le savez, pour effacer le péché de l'humanité. En effet, à cause de ce péché attaché à la nature humaine, et selon la loi immuable de Dieu, qui est celle que celui qui pêche doit mourir, car le salaire de la mort, c'est le péché, eh bien, cet état de fait nous empêche d'être en communion avec notre Créateur. Il nous est important également de nous souvenir de la Pâque juive, puisqu'elle préfigure ce sacrifice suprême de Jésus. En effet, par le sang d'un agneau pur versé sur les litteaux des portes des maisons juives, ils purent ainsi échapper à l'extermination de tous les premiers-nés en Égypte et de ce fait être enfin libérés de l'esclavage égyptien. De même que pour tous les juifs de l'époque ont pu échapper à ce fléau en mettant leur confiance dans ce sang protecteur, nous aussi aujourd'hui, nous avons foi dans le sacrifice de Jésus. Pour le pardon de nos péchés, nous serons aussi libérés de l'esclavage, mais non pas des Égyptiens, mais du péché. Et ainsi, nous serons épargnés au jour du jugement dernier. Ainsi, aujourd'hui est un jour de joie, puisque nous avons accès au pardon de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Cependant, sans vouloir gâcher cette fête, je voudrais ce matin plutôt m'attarder sur une chose, la souffrance endurée par notre Sauveur. Cette souffrance, il l'a traversé, il l'a vécu pour nous l'éviter. En effet, je crois que notre joie et notre connaissance pour ce qu'il a fait pour nous seront d'autant plus profondes que nous nous rendrons compte des quelles souffrances il a traversées. Pour lui, le prix était d'une importance capitale. Lui, c'est le Dieu de la vie. Il sait ce que c'est que la vraie vie. Nous sommes morts à la naissance. Sans son action, nous ne pouvons vivre la communion avec Dieu, ce qui est la vraie vie. Je vous cite ce passage dans Matthieu 26, 39. Je pense que vous le connaissez tous. C'est Jésus. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Ces paroles lourdes de sens laissent entrevoir l'angoisse poignante dont Jésus était en proie à quelques heures de son supplice. Cette prière prononcée à 3 reprises par Jésus à Gethsémané résume en fait toute la vie de ce dernier. Non pas comme je veux moi, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi, qui est parfaite. Dans le livre de Luc, l'auteur précise même que sa sueur ressemblait à des grumeaux de sang qui tombaient à terre, tant ce que vivait Jésus à ce moment-là était oppressant. Alors qu'est-ce qui pouvait bien mettre Jésus dans un tel état? Était-il à ce point conscient de tout ce qu'il allait devoir endurer? Bien évidemment, il n'est pas nécessaire de rappeler qu'en tant que fils de Dieu, il connaissait à l'avance les événements à venir. Et de plus, il connaissait fort bien les prophéties de l'Ancien Testament, notamment Ésaïe 53 et Psaume 22. Je vais vous en lire quelques extraits pour mémoire. Psaume 22, versets 12 à 18. Psaume 22, versets 12 à 18. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil le lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Ésaïe 53, versets 2 à 10. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par sa souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Jésus savait donc ce qu'il attendait, et l'on peut aisément comprendre son effroi de savoir qu'il serait coupé pour un temps de la communion avec son Père. Et pendant ce temps de séparation, il était livré en pâture au mal personnifié, à Satan lui-même. Mais avant cette souffrance finale, il devait endurer toutes sortes d'humiliations par ceux qu'il était venu sauver. Je commencerai tout d'abord par ses proches, ses amis, ses disciples. Imaginez plutôt plusieurs années de sa vie passées en communion avec eux, partageant les joies, les peines, les souffrances. Tant de moments intimes. N'oublions pas que Jésus était à la fois homme et Dieu, et sa nature humaine faisait qu'il avait les mêmes sentiments que nous. Imaginez un petit peu, il savait tout ce qu'il allait devoir endurer à l'avance. Imaginez un petit peu, il savait aussi la détresse humaine. Il connaissait ses défaillances. Mais il connaissait la profondeur de l'âme également. Imaginez un petit peu aussi ces alliances fraternelles les uns avec les autres, à la vie et à la mort. Rabbi, maître, nous ne t'abandonnerons jamais. Bref, tout ce que son côté humain pouvait lui apporter d'émotions en tout genre. Et le jour de l'épreuve. Le jour de l'épreuve, tout s'envole. Où sont passés ces serments de fidélité à la vie et à la mort? Où est-elle passée cette amitié à toute épreuve? Personne n'a pu veiller ne serait-ce qu'une heure avec lui. Et pourtant, ils connaissaient tous l'importance de ce moment. Lui, Jésus, a toujours été là pour ses amis. Et quoi en retour? La seule fois qu'il fait appel à eux, il n'y a personne. Pire que tout, la lâcheté a remplacé la bravoure. Ce n'était que des paroles. Ah, qu'ils sont beaux, ces amis. L'abandonnant, le reniant et à plusieurs fois en plus, et pire encore, le trahissant pour quelques pièces d'argent. Mais Jésus savait déjà tout cela, avant même que cela n'arrive. Et il l'avait prophétisé. En Jean 16, 32, il disait ceci. « Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » C'est malheureusement bien ce qui s'est passé le jour où les soldats romains et la cohorte juive sont venus pour le faire emprisonner et ensuite crucifier. Ses disciples qui étaient avec lui se sont échappés. Ils sont partis en courant. Ainsi, il a dû subir les moqueries, la honte aussi probablement. Une chose m'avait échappé que j'ai revue à la lecture. Lorsqu'ils ont interrogé Jésus, enfin, et surtout par la suite, pour, avant de l'emmener à Golgotha, ils l'ont déshabillé pour le revêtir d'habits, entre guillemets, royaux, avec un manteau écarlate, une couronne d'épines, et en guise de sceptre royal, un roseau. Ils l'ont déshabillé entièrement pour l'habiller ainsi, s'agenouiller devant lui et se moquer de lui. Vous imaginez un petit peu? Est-ce que vous imaginez la scène? Lui, notre Dieu, notre Créateur, le roi des rois, humilié de la sorte, ils l'ont déshabillé pour le rhabiller, se moquer de lui, en se moquant de sa royauté, le roi des rois. Le roi des rois. Une autre chose aussi m'a bien interpellé pour vous dire à quel point la mesquinerie est allée à son comble. Ils se sont même amusés, imaginez un petit peu, imaginez, ils se sont même amusés à le recouvrir la tête et à lui mettre des gifles et en lui disant « Prophétise qui t'a tapé ». Vous imaginez un petit peu ? Devine qui t'a giflé. La bassesse humaine. Lui qui n'avait fait que le bien autour de lui, guérit les malades, ressuscité des morts, l'ami des faibles, des pauvres, il n'avait fait aucun mal. Pourquoi le traiter comme ça? Quelle injustice! Quelle injustice! Et Jésus est venu mourir pour ces gens-là. Il est venu mourir pour ces gens-là. Il est venu mourir pour nous. Quelle moquerie! Le déshabiller ainsi, le couronner d'épines, se moquer de lui. Et ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Ça, c'est ce que nous avons vu, ce qu'on nous relate, ce que les hommes ont vu, physiquement, Mais imaginez un petit peu ce qu'il a dû traverser spirituellement. Parce que le combat, il est surtout là. Le combat, il est principalement là, le combat spirituel. Je pense que vous avez tous quelques années de vie chrétienne derrière vous. Et si je vous parle de combat spirituel, d'attaque, de pensée, vous avez quelques idées de ce que ça peut être. Alors imaginez bien, imaginez l'enjeu. Satan savait très bien l'enjeu de ce que Jésus était en train de vivre. Il savait très bien qu'au bout, c'était soit la victoire, soit la défaite. En tant que chef de guerre, je peux vous assurer qu'il a mis le paquet sur Jésus. Il a mis le paquet. Les angoisses, la dépression, envie de vengeance, abattement, envie de suicide, colère, paranoïa, convoitise. Il a utilisé toutes ses armes possibles pour le faire pécher, pour le faire chuter, pour le faire abandonner, pour le faire nous haïr. J'imagine bien Satan en train de lui dire « Hé, Jésus, tu as vu ce que tu traverses là ? Tu es bien sûr d'arriver à aller au terme ? Est-ce que tu es bien sûr de pouvoir assumer tout ce que tu vas endurer ? Parce que regarde pour qui tu vas vivre tout ça. Regarde. Regarde ce que c'est que l'espèce humaine. Elle est belle, l'espèce humaine. Regarde tes amis. Ne serait-ce que ça. Regarde tes amis. Ceux qui t'ont tous juré fidélité, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais Pierre, celui qui a marché sur l'eau quand tu l'as appelé, celui qui t'a dit « jamais je ne te renierai », qu'est-ce qu'il a fait ? Non seulement il t'a renié, mais en plus il a proféré des malédictions. C'est écrit dans la parole. « Malheur à moi, jamais ! Je ne le connais pas !» Imaginez un petit peu. Si on se mettait à sa place, on aurait du mal à pardonner. Hein. On sera toujours là pour toi. T'inquiète pas, Jésus, on est là. On t'aime. Ça fait des années qu'on est avec toi. On te connaît. On sait tout ce que tu as vécu. Nous, on mourra à ta place même. Hein ? Ben non. C'est pas du tout ce qui s'est passé. J'imagine bien Satan lui dire « Tu es en train de mourir, de souffrir pour des ingrats, pour des gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur propre cause. Quand tout va bien, ah oui, ils t'aiment. Quand tout se passe bien. Mais dès qu'il y a une amicroche, dès qu'il y a un petit problème, dès que leur intérêt est touché, il n'y a plus personne. » Et bien malgré ça, Jésus est allé au terme de son engagement. La parole nous dit, si l'homme est infidèle, lui demeure fidèle. Et il nous l'a prouvé. Il nous l'a prouvé, vous savez de quelle manière ? C'est pas par sa mort qu'il nous l'a prouvé. Parce qu'après tout, combien d'hommes sont morts ? Pour des causes plus ou moins justes. Il y a d'autres hommes qui sont allés jusqu'au bout. La preuve qu'il est allé jusqu'au bout, c'est sa résurrection. C'est sa résurrection. C'est la preuve de sa réussite complète à l'épreuve. C'est sa résurrection. C'est parce qu'il est ressuscité. Et par cette résurrection, nous avons part à sa résurrection. Si toutefois, nous souffrons aussi avec lui. Et ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Certes, il nous donne la vie éternelle, de joie, de bonheur, de paix, dans la communion avec Dieu. Mais il y a un prix à payer aussi. Le Seigneur nous a dit aussi dans sa parole, celui qui veut venir, qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Donc si nous voulons suivre aujourd'hui Jésus, si nous voulons être au bénéfice de cette victoire sur la mort et le péché, nous avons aussi un prix à payer. Nous devons le suivre sur la croix. Chaque jour, nous devons endurer la mise à part de ce monde de ténèbres. Chaque jour, nous avons part à ces souffrances. Et l'ennemi sera là pour nous faire chuter. Il le fait chaque jour. Il a perdu la guerre, mais la bataille est toujours là. Et la bataille, elle est pour nous. Jésus nous le dit. Hein. Il nous dit, je vous laisse dans le monde des agneaux parmi les loups. C'est le cas. Mais nous avons un secours. Et ce secours nous vient du ciel. Et ce secours, c'est le Consolateur. C'est le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé à la Pentecôte, qui est une autre fête. Ce Saint-Esprit qui nous aide à relever ce défi, nous aide à marcher dans ses traces, nous aide à suivre cet exemple parfait. Si nous ne l'avions pas, nous aurions fait comme Pierre et tous les autres. À la moindre difficulté, nous partirions en courant. Nous renierons notre maître qui nous aurait sauvés. Mais c'est par sa puissance que nous sommes victorieux. Par le sang de Christ, nos péchés sont purifiés, sont lavés. Notre robe est blanchie. Par sa résurrection, nous sommes avec lui, assis, en espérance dans le ciel. Et par son Esprit Saint, nous avons la puissance, le pouvoir de lutter, de résister et d'être victorieux sur le péché, sur notre chair et sur les ténèbres. Suivons donc son exemple, suivons l'exemple de Jésus-Christ. Portons notre croix, allons jusqu'à mourir à nous-mêmes. Car il faut que le grain meure pour qu'il puisse renaître. Avant de devenir un arbre, la graine est en terre, elle meurt. Et ensuite elle renaît. C'est la nouvelle naissance, mais c'est aussi la mort à soi-même. Ça fait partie du processus de sanctification qui est à renouveler chaque jour. Chaque jour est une lutte. Le dicton dit « à chaque jour suffit sa peine ». C'est un peu ça. Toutes les épreuves que nous sommes amenés à traverser, ou que nous serons amenés à traverser, par la promesse de notre Dieu, ne sera jamais au-delà de nos forces. Et je peux vous dire qu'on est beaucoup, dans cette assemblée, à être passés au crible de l'ennemi. Mais je peux vous dire aussi que par l'amour que Dieu met dans nos cœurs, nous sommes les uns avec les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Et c'est le commandement principal de Jésus. Comment reconnaîtront les disciples de Christ si ce n'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres? Ainsi, la coupe de la colère de Dieu pour le péché a été prise par notre Seigneur Jésus-Christ à notre place. Buvons à notre tour en signe de souvenir et de reconnaissance une autre coupe, bien plus glorieuse celle-là, celle de la nouvelle alliance en son sang versé pour nous. Je demanderai à deux volontaires de venir ici pour distribuer le pain et le vin de communion. Seigneur, aucun mot ne pourrait retranscrire l'émotion, le sentiment, la reconnaissance de l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous. Reçois juste notre merci du plus profond de notre âme, de notre cœur. Seigneur, tu nous as laissé ce moment de communion que la Sainte Cène pour nous souvenir de ta venue sur terre, de ta mort pour notre péché, mais aussi de ta résurrection. Que nous puissions vraiment disposer nos cœurs à reconnaître en toi notre seul Sauveur, mais aussi notre seul Seigneur. Que nous puissions à ce moment présent mettre les choses à plat devant toi, reprendre un départ s'il le faut, recommencer tout à zéro, laver notre robe dans ton sang et pouvoir nous représenter à nouveau pur et saint devant ta face. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen.